Quelle aventure! Il n'y avait probablement plus un seul bâtiment debout dans l'île. La plateforme du palais, entièrement crevassée, était inclinée, à moitié immergée dans le lac, comme une arche de Noé qui aurait chaviré. Quant au palais lui-même, il n'en restait plus trace, à part un monticule de pierres d'or qui émergeait du côté sud. 17 ans de vanité et d'humiliation, entièrement engloutis. Mais d'un point de vue pratique, le plus dramatique était que le Speranza se trouvait échoué au beau milieu du village. Il avait été soulevé comme un fétu par le mascaré et porté, l'étrave en avant, dans une rue moitié moins large que sa coque. Il semblait immense dans ce petit village, prisonnier pour toujours, défoncé comme une boîte d'allumettes. C'était un spectacle étonnant. Ses bossoirs surplombaient la rue de 12 mètres et son étrave était à 5 mètres au-dessus du sol. Le gouvernail restait sur le quai, le mât de misaine couché sur l'avant et cette coque qui avait parcouru tant de mers lointaines, couverte d'algues multicolores. Triste fin pour le brave Speranza. Mais comme son échelle de coupé était toujours là, je pus, en sautant, attraper son dernier échelon et grimper main à main jusqu'à ce que je trouve un point d'appui. Mais je dus pour cela attendre 10 heures du soir. L'eau de la mer s'était retirée en laissant son humidité derrière elle. Elle était avec moi et elle me suivit sur le bateau. Presque tout était brisé, méconnaissable. Les cloisons du rouf avaient été légèrement déplacées. L'avant du canot de cèdre s'était brisé en son milieu contre la yole. Heureusement, la péniche à moteur n'avait pas rompu ses amarres, et l'un des compas était encore en bon état. Sans quoi, je ne sais pas ce que je serais devenu, car les 4 vieux canots qui étaient dans la baie avaient disparu. Je la fis dormir sur le plancher de la cabine, parmi les débris de toutes sortes, et j'allai me coucher dans les bois, à l'ouest. J'écris ces lignes étendues dans l'herbe folle. Le soleil est maintenant levé, bien que je ne puisse le voir. Voici ce que je projette de faire aujourd'hui. Je vais découper à la scie 4 rondins de bois et les poser par terre à côté du bateau. Je placerai la péniche dessus et je la roulerai ainsi jusqu'à l'eau. Et à la nuit tombante, je dirai un long adieu à l'île d'Imbros qui a voulu me chasser ainsi. Cependant, ce n'est pas sans plaisir que je pense à notre excursion d'une heure jusqu'au continent. Je lui apprendrai à gouverner au compas et à manœuvrer le moteur à air liquide, comme je lui appris à s'habiller, à parler, à cuisiner, à faire des expériences de chimie, à écrire, à penser, à vivre. Cette créature est ma création, comme une côte de mon flanc. Mais quel dessein supérieur se cache derrière cette expulsion, si tant est qu'il y ait des desseins? Et que voulait-elle dire la nuit dernière? Cet Haran n'est-il pas l'endroit d'où Abraham est sorti quand il a été appelé par Dieu? Il semble qu'à Imbros, nous n'ayons ressenti que la queue d'un tremblement de terre qui a dévasté la Turquie. Nous voici 2 pauvres créatures désemparées sur le théâtre de cette destruction. C'est un grand malheur, car les fureurs de la nature sont aujourd'hui ahurissantes, et qui sait ce qui peut encore arriver. Quand nous fûmes en vue de la côte macédonienne, nous la longeâmes et remontâmes les Dardanelles à la recherche d'un village, d'un yali, d'une habitation quelconque où nous aurions pu nous installer. Mais tout était détruit. Kilidbar, Chanakkale, Gallipoli, Lapsaki n'étaient plus que ruines. J'accostai à Lapsaki et je la laissai dans le bateau. Je fis quelques pas à l'intérieur de la ville, mais bien vite je retournai à bord. Il n'y avait pas une seule arcade de bazar encore debout. On ne reconnaissait plus nulle part le tracé des rues. La ville s'était écroulée comme un château de cartes et la secousse avait tout mélangé. Finalement, nous allâmes dormir dans une forêt de l'autre côté du détroit, au-delà de Gallipoli, en emportant quelques provisions. Pour arriver là, nous dûmes, en certains points, traverser des marécages profonds de 50 cm avant de trouver un terrain sec et boisé. Le lendemain matin, je réfléchissais tout seul, car nous avions dormi à 500 mètres de distance, en me demandant où aller. Par goût, j'aurais aimé rester dans cette région ou partir vers l'Orient. Mais je me rendais compte que cette région était inhabitable, et pour aller dans le Proche ou l'Extrême-Orient, j'avais besoin d'un bateau. Or, durant la nuit, je n'avais vu en fait de bateau que des épaves, et je ne savais où en trouver un dans ce pays. J'étais donc, comme son Abraham, obligé d'aller vers l'ouest. Dans ce but, je commençai par me diriger vers l'est. Une fois de plus, je franchis la Corne d'Or. Une fois de plus, je montai les marches brûlées par l'incendie du sérail. Ce que les dérèglements d'un homme avaient épargné, les dérèglements de la nature l'avaient détruit. Les quelques maisons que j'avais laissées debout sur les hauteurs de Péra étaient maintenant rasées comme le reste. La maison près de Souleymanié, où nous avions vécu notre première journée, et où je retournais comme on retourne à une maison familiale, n'avait plus un seul pilier debout. Cette nuit-là, elle dormit sous le demi-toit d'un petit kiosque funéraire, dans le bois de cyprès incendié d'Eyoub, et moi, à 1500 mètres de là, à la lisière de la forêt où je l'avais vue la première fois. Le lendemain matin, comme convenu, nous nous rencontrâmes devant la mosquée du prophète, et nous traversâmes ensemble la vallée et le cimetière de Cassim, puis nous montâmes, non sans peine, jusqu'à Péra. Tout ce paysage avait pour moi un aspect désordonné auquel je n'étais pas accoutumé. Nous avions décidé d'employer la matinée à chercher des provisions dans les ruines de Péra, et comme je voulais en recueillir assez pour nous éviter de futurs ennuis, nous passâmes des heures à cette occupation. Je m'étais réservé pour ma part la maison blanche du parc surplombant Cassim, où j'avais dormi une fois, et je me perdis parmi ces salles bouleversées, ces toits et ces murs effondrés. Elle alla d'abord dans le quartier musulman de Djangir, tout proche, sur les hauteurs de Taksim, où l'on trouvait jadis de nombreuses boutiques. Puis elle contourna la colline jusqu'à l'ambassade de France, qui donnait sur Fondoukli et la mer. Nous avions avec nous des sacs de voyage. Partout dans l'air de cette solitude dévastée flottait ce matin-là une pénétrante senteur de fleurs d'érable. Nous nous retrouvâmes le soir. Elle tremblait de fatigue sous le poids de son chargement et je ne voulus pas le lui laisser porter. J'abandonnai mon sac à provisions assez léger et pris le sien. Nous repartîmes vers l'ouest, cherchant un asile pour nous protéger de la rosée nocturne, si pénétrante sous ce climat, mais nous n'en trouvâmes aucun. Finalement, très tard, nous arrivâmes devant son kiosque funéraire démoli, situé à l'entrée de l'immense avenue centrale du cimetière d'Eyoub. Une fois là, sans un mot, je la quittai, la laissant parmi les catafalques en ruine, car j'étais fatigué. Je revins après avoir fait quelques pas, pour prendre une ou deux grappes de raisin dans le sac. Après m'être servi, je lui tendis la main, elle était assise sur une pierre à l'abri du toit, et je lui dis « Bonne nuit, Clodagh ». Elle ne répondit pas tout de suite, et à ma grande surprise, sa réponse fut une protestation contre le nom que je lui donnais. D'une voix maussade, gentille pourtant, elle me dit dans l'ombre « Suis-je une empoisonneuse ?»« Bon, eh bien, dis-moi quel nom tu aimerais que je te donne, et c'est ainsi que je t'appellerai désormais. »« Appelle-moi Ève, » dit-elle. « Certainement pas, dis-je. Pas Ève. N'importe quel nom, mais pas celui-ci, car mon nom est Adam, et ni toi ni moi ne tenons à être ridicules aux yeux l'un de l'autre. » Mais je t'appellerai du nom que tu choisiras. « Alors, appelle-moi Léda, » dit-elle. « Pourquoi Léda ?» demandai-je. « Parce que Léda a un peu le même son que Clodagh, et que tu as déjà pris l'habitude de m'appeler Clodagh. J'ai vu Léda dans un livre. J'aime ce nom-là, mais Clodagh est horrible.
C'est entendu, dis-je. Tu seras Léda.
J'aime aussi ce nom-là, et il est bon que ton nom commence par un L. Bonsoir, ma chère. Dors bien et fais de beaux rêves.
À toi aussi, que Dieu donne des rêves de paix et d'agrément, répondit-elle. Je m'en allai.
C'est seulement quand je fus étendu sur un lit de fougère, la tête sur mon cafetan, près d'un ruisseau qui babillait, n'apercevant que deux étoiles dans l'immensité du ciel et à moitié endormi, qu'une pensée frappa mon esprit et me réveilla. Je me souvins que Léda était le nom d'une jeune grecque qui mit au monde des jumeaux. Je ne serais pas tellement surpris que cette Léda fût une autre forme d'Ève, car, à l'origine, tous les langages étaient analogues. J'ai entendu dire à ce propos que le V et le B étaient interchangeables, de même que le D. Si donc « di » signifie « Dieu » ou « la lumière » et « bi » qui signifie « la vie » ou « Jove » ou « Jéhovah » ou « Dieu » n'était qu'un seul mot, je n'en serais nullement surpris. Ainsi, le mot anglais « widow » et le mot français « veuve » ont la même racine. Et si l'on dit « en vérité la lumière est bonne », cela équivaut à dire « en vérité le Dieu est Dieu ». De toute façon, il y a une fatalité qui me poursuit, même dans les petites choses. Ainsi, cette Ève occidentale ou cette Léda grecque engendra des jumeaux. Le lendemain matin, après avoir traversé les ruines du Phanar grec, nous dépassâmes le triple mur d'Istanbul, dont on voyait encore le portail couvert de lierre, pour suivre, non sans de nombreuses escalades, le chemin de la Corne d'Or jusqu'au pied du vieux sérail où je retrouvai le tracé du chemin de fer. C'est alors que commença notre voyage à travers la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Bosnie, la Croatie, jusqu'à Trieste. Au lieu de durer un jour ou deux comme dans le temps, il nous prit 4 mois. Ce fut un long cauchemar, mais un cauchemar agréable, si j'ose m'exprimer ainsi. Je garde en mémoire une grandiose impression de ravins profonds et vastes, se succédant sans arrêt, de jungles étranges qui semblaient sortis de l'imagination d'un poète halluciné et d'obscurité perpétuelle. On entendait les doléances de rivières invisibles, de cataractes, de ruisseaux gênés dans leur cours et dont les joncs qui les bordent ne voient jamais la lumière du soleil ou de la lune. Partout le vaste, le secret, la profusion, l'indicible, l'inimaginable, une sauvagerie des plus enivrantes et des plus spectaculaires dans sa férocité. On voyait aussi les vallées d'Arcadie, de lointains pics montagneux, des petits lacs de montagne gardés par des gnomes comme des trésors ensevelis depuis des siècles, et des glaciers. À nous deux, nous représentions une foule humaine vraiment dérisoire, et nous étions écrasés par ce paysage, perdus dans ce monde inhabité, mais nous allions toujours de l'avant. Le premier jour, nous suivîmes les rails et nous finîmes par trouver un train. La locomotive me parut en bon état, et il y avait tout ce qu'il fallait pour que je puisse la conduire, mais le ballast était tellement disloqué, rompu, défoncé depuis le tremblement de terre, qu'après avoir parcouru quelques centaines de mètres, je compris qu'il fallait y renoncer, ce qui me mit dans un état voisin du désespoir. Je ne savais plus quoi inventer. Je persévérais malgré tout, et nous marchâmes 3 jours, en suivant la voie ferrée, qui était à large écartement, comme il est d'usage dans cette partie de l'Europe orientale. Je pus constater que, malgré la rouille, bon nombre de rails étaient encore en bon état, et je repris courage. J'avais avec moi des cartes terrestres et un compas, mais rien pour faire le point, tous les autres instruments du Speranza ayant été brisés dans la tornade. Cependant, quand nous arrivâmes dans la ville de Silivri, à 50 kilomètres de notre point de départ, je découvris, dans les ruines d'un bazar, de nombreux objets de cuivre, ainsi que des sextants, des cadrans, des théodolites. Deux jours plus tard, nous trouvâmes une locomotive en rase campagne. Elle était approvisionnée en charbon et il y avait un cours d'eau à proximité. Les organes étaient en bon état, comme je pus m'en rendre compte après une heure d'inspection. J'examinai la chaudière avec une chandelle à travers le trou d'homme. Elle était couverte de rouille et la barre de connexion en particulier paraissait bien peu solide. Bien que j'eusse une outre en peau de bouc pleine d'huile d'amande, je doutais de pouvoir la remettre en état. J'essayai cependant, et bien que je ne puisse boucher toutes les fissures de la tubulure qui conduit la vapeur dans la boîte à vapeur, tout marcha bien. Sous une pression qui ne dépassa jamais 3 atmosphères, nous parcourûmes près de 150 kilomètres avant d'être bloqués par un butoir, et nous dûmes abandonner notre machine. Après quoi, nous parcourûmes 15 kilomètres à pied. Je regrettai mon automobile, que j'avais dû abandonner à Imbros. J'espérais en trouver une dans un village, mais en vain. Rien de plus merveilleux que de voir les villages et les villes retourner à la nature. Ils étaient déjà envahis par la végétation, et il n'y avait plus aucune solution de continuité entre la ville et la campagne. Tout était d'un même tenant. Une fois abandonnée des hommes, la terre reprend sa fureur et son appétit vorace. Pendant toute une journée, dans les gorges du sud des montagnes balkaniques, la locomotive poursuivit son chemin pendant des kilomètres entre d'interminables rideaux de liserons aux énormes fleurs de feu, mais sous leur couvert, nous étions comme les ombres de la nuit. Paysage aussi impénétrable que les savanes de Java et des Philippines. Ce jour-là, elle était allongée sur un étroit divan que je lui avais confectionné dans l'unique wagon accroché à notre locomotive. Elle frôlait les cordes de sa guitare sans prendre un moment de repos, fredonnant indéfiniment le même air de sa voix de contralto. C'était un air un peu triste qui venait du fond de son âme et qu'elle avait inventé. Je pouvais l'entendre malgré le bruit de ferraille monotone de la machine. Je finis par en être possédé comme on est possédé par l'ivresse, une ivresse pareille à un chagrin délicieux, évanescent, à une douleur que le sommeil calme, à une détresse lentement apaisée. C'était si délicieux que tout l'enchevêtrement des branches et leur ombre monotone avaient cessé d'exister pour moi, dans l'espace et dans le temps. Il n'y avait plus que ce chemin tracé par le ciel, où sa complainte s'exhalait. Mes doigts essuyèrent beaucoup de larmes ce jour-là, et je ne pouvais que soupirer en répétant « Oh Leda, oh Leda, oh Leda ». Jusqu'à ce que j'en ai le cœur brisé. La courroie de cette excentrique machine était à moitié pourrie et elle se rompit brusquement vers 5 heures de l'après-midi. Elle sauta du wagon et me dit « J'avais le pressentiment que quelque chose allait arriver et j'en suis bien contente car je suis fatiguée. » Voyant que je ne pouvais rien faire pour réparer cette courroie, je descendis à mon tour et pris le sac. Nous fîmes une trouée dans l'écran continu de la végétation et, à travers une crevasse rocheuse, nous nous frayâmes un chemin sur la gauche de la voie en escaladant des rocs couverts d'une mousse frisée comme une chevelure de nègre. Impossible d'apercevoir le ciel à travers le feuillage qui s'élevait à 30 mètres au-dessus de nos têtes. Autour de nous, c'était une profusion de fougères couvertes de rosées, de cheveux de Vénus rebelles à toute ordonnance, accrochés à des mimosas aux larges feuilles, de vignes vierges, de brionnes blanches. Une odeur de cèdre flottait dans l'air, et un léger bouillonnement d'eau vive animait ce paysage crépusculaire. Après bien des détours, et après avoir débarrassé de ces herbes 5 grandes marches presque régulières, bien que naturelles,
La gorge s'ouvrit sur une brèche ronde de 12 mètres de large et 200 mètres de haut, surplombée de rochers. Quand nous fûmes arrivés là, derrière un rideau de verdure dont les vrilles régulières formaient des sortes de chapelets, nous nous installâmes pour pique-niquer. J'ouvris des boîtes de fruits, de légumes, de viande. Je débouchai le vin et elle disposa le tout sur le plateau d'or. Nous fûmes obligés d'allumer la lampe à alcool et la lanterne, car il faisait très sombre. La lumière nous permit d'apercevoir, derrière le feuillage, une grotte tapissée de mousse, creusée dans le roc. Devant l'entrée, un bassin large d'environ 2 mètres, noir mais transparent, recevait l'eau d'un ruisselet qui s'écoulait de la grotte et y tourbillonnait lentement. 4 poissons aux yeux de chouette y musardaient ou se pourchassaient, et je les regardais jouer. Après avoir mangé, nous paraissâmes là un bon moment. Léda fuma une cigarette, puis déclara qu'elle avait envie de courir. Elle s'en alla et me laissa à ma tristesse. Elle est vraiment à elle seule, le soleil et la lune, et l'hôtesse du ciel. Je passai la nuit à refaire mon calendrier à la fin de mon cahier de notes, car mon almanach avait disparu dans les décombres du palais d'Imbros. Je comptais les jours dans ma tête, mais je les comptais surtout en fonction des pensées qu'elle m'inspirait. Elle revint me dire bonsoir et partit se coucher dans le train. De mon côté, j'éteignis la lumière, j'entrai dans la grotte et, après m'être fait un lit de fougère à côté du ruisseau, je m'endormis. Je dormis mal et me réveillai bientôt. Je ne pus retrouver le sommeil. J'écoutais une goutte d'eau qui, à intervalles réguliers, giclait dans un coin de la grotte. Le bruit de cette éclaboussure devenait de plus en plus insistant, de plus en plus triste. Il résonna bientôt à mes oreilles, en composant un nom comme « Lisha », que j'eus vite fait de transformer en « Léda ». C'était un peu comme un sanglot, et je finis par m'apitoyer sur moi-même, tant j'étais triste. Quand je ne pus plus supporter l'angoisse que me causait le sanglotement de la goutte d'eau, je me levai, et doucement, très doucement, pour qu'elle ne m'entende pas au milieu de ces ténèbres silencieuses, je m'approchai, la gorge serrée, laissant mes pas me conduire vers elle. Quand j'atteignis le wagon, je restai 1 heure, le front appuyé contre la paroi de métal, pouvant à peine respirer. Tout se mélangeait dans ma tête, elle, la nuit en suspens, les elfes de l'air dont j'entendais les voix silencieuses, et cette goutte d'eau qui m'avait tourmenté au fond de la grotte. Avec précaution, je tournai la poignée de la porte. Je l'entendis respirer dans son sommeil. J'approchai mon visage du sien et je frôlai ses cheveux de mes lèvres. Tout près de son oreille, pour éviter de la réveiller, je murmurai « Léda, je suis venu vers toi, je ne pouvais pas faire autrement. Mon cœur est plein d'amour pour toi, car tu es à moi et je suis à toi. Nous vivrons ensemble jusqu'à la mort, et après la mort, nous serons encore l'un à côté de l'autre, Léda, avec mon cœur brisé près de ton cœur, petite Léda. » Sans doute ai-je sangloté, car pendant que je prononçais ces mots d'amour, je tressaillis en entendant sa respiration s'interrompre. En toute hâte, je fermai la porte et je retournai aussi vite que possible à la grotte. Quand nous nous retrouvâmes le lendemain, il me sembla, mais je n'en suis pas tout à fait sûr, qu'elle souriait d'une manière bizarre. Je le pensais du moins. Peut-être m'avait-elle entendu, mais je ne puis le dire.
Thank you.
Par deux fois, je fus obligé d'abandonner mes locomotives à cause des arbres énormes qui bloquaient la voie et que j'étais incapable de déplacer. Ce furent les deux incidents les plus désagréables de ce pèlerinage. Je changeai au moins 25 fois de machine parce que d'autres trains obstruaient la route. Quant à l'étendue du tremblement de terre, il devint évident qu'il avait secoué toute la péninsule et en plusieurs points avec une extraordinaire violence. Au moment où nous entrâmes en territoire serbe, les rails étaient parfois si disloqués qu'il était impossible de les utiliser. Tout au long du parcours, je n'ai pas rencontré une maison ou un château qui fussent intacts. Par trois fois, quand le terrain le permettait, j'abandonnai le ballast bouleversé et je conduisis la machine à travers champs pour rejoindre un ballast praticable. Mais ce n'était pas une petite affaire que de remettre la locomotive sur les rails. Nous ne pouvions voyager que par petites étapes, nous ne pouvions pas faire le point tous les jours pour savoir où nous étions. D'autre part, comme je devais conduire à basse pression, craignant l'usure de la tuyauterie et de la chaudière, que nous traversions les tunnels à une allure extrêmement réduite et que nous nous arrêtions à la nuit tombante, nous ne faisions pas beaucoup de chemin. Mais cela ne nous souciait guère. À deux reprises, nous fûmes surpris par des orages d'une telle violence qu'il ne pouvait être question de rouler. Nous ne pensions qu'à trouver un abri aussi profond que possible. Le premier dura deux jours entiers, le second quatre. Un jour, je traversai une ville, Andrianople, doublement dévastée. La première fois, par l'incendie que ma perversité y avait allumé, la seconde fois, par la nature. Je m'empressai de prendre le large. Finalement, 3 mois et 20 jours après la date du tremblement de terre, nous n'avions parcouru que 1500 kilomètres environ. Le matin du 10 septembre, j'affalai la voile latine d'un Speranor maltais et je mouillai son ancre de pierre dans la lagune de Venise. C'était une embarcation que j'avais découverte à Trieste et mis hâtivement en état de naviguer. Nous prîmes une gondole pour remonter le grand canal et je dis à Leda « Je vais planter ma tente de patriarche à Venise. » Mais on ne fait pas toujours ce qu'on a décidé et une fois de plus, je repartis vers l'ouest. Il faut dire que des miasmes pestilentiels émanent des eaux stagnantes de cette ville de Cano et deux jours après mon arrivée, je fus dévoré par la fièvre dans le vieux palais Procuradier. Elle se tenait à côté de moi, pâle et stupéfaite. Pour elle, la maladie était une chose toute nouvelle. C'était en effet la première fois que je tombais malade, depuis le jour où, épuisé de travail, j'étais parti pour Constantinople. Je ne pus quitter mon lit pendant 15 jours, mais heureusement, je gardais ma lucidité. Et elle me procura toute la pharmacopée qu'on pouvait trouver dans les boutiques. Je pus ainsi choisir mes médicaments. Je devinai la cause de cette maladie, bien que Leda n'en ressentît aucun symptôme, et dès que mes jambes purent me porter, je m'empressai de partir. Toujours vers l'ouest. Après les difficultés rencontrées en Turquie, je trouvais ici un certain plaisir à voyager. Dans la région que nous traversions, les ballasts étaient en bon état, les locomotives nombreuses et bien conservées, et dans les villes, je trouvais quantité d'automobiles à ma disposition. Et la nature était ici beaucoup moins sauvage. Je ne sais pourquoi je ne m'arrêtais ni à Brescia, ni à Vérone, ni au bord des lacs italiens, car j'adore l'eau. J'avais plus ou moins en tête de retourner à Vauclaire, en France, où j'avais résidé quelque temps et où j'habite aujourd'hui. Je pensais qu'elle aimerait ces vieux moines. En tout cas, nous ne séjournâmes nulle part très longtemps avant d'arriver à Turin. Nous y restâmes 9 jours. Elle habitait la maison située en face de la mienne. Après quoi, ce fut elle qui proposa de reprendre la route. En train, nous traversâmes tranquillement la vallée de l'Isère, puis celle du Rhône,
jusqu'à la vieille cité de Genève, au milieu de ses montagnes couvertes de neige. La ville est située à la pointe d'un lac en forme de croissant de lune, qui, comme elle, a de grandes beautés et une humeur capricieuse. Son charme est enchanteur. Cependant, comme j'étais toujours hanté par le désir de revoir Vauclair, nous quittâmes Genève à 4 heures de l'après-midi, le 7 mai. J'avais l'intention d'arriver à une ville appelée Bourg vers 8 heures. Mais je ne sais plus à la suite de quel concours de circonstances, peut-être fût-ce à cause de la pluie, je manquais la route indiquée sur la carte, qui aurait dû être une route de plaine, et je me retrouvais, à la nuit tombante, sur des pistes de montagne et incapable de me reconnaître sous une pluie battante particulièrement malvenue. Je m'arrêtais souvent, essayant d'apercevoir un château, un chalet ou un village, mais je n'en vis aucun. 3 fois cependant, j'empruntais la voie du chemin de fer, sans résultat. Vers minuit, je descendis un chemin assez escarpé qui me conduisit au bord d'un lac. À en juger par son immense étendue, dans une obscurité sans lune, je me retrouvai une nouvelle fois au bord du grand lac. À 300 mètres à notre gauche, nous découvrîmes, à travers la pluie, un édifice à l'aspect fantomatique qui semblait sortir du lac. Il était en pierre blanche, pas très haut mais trapu, un vieux monument aux tourelles compliquées, coiffées d'éteignoirs marrons. On discernait de bizarres recoins gothiques et des fenêtres à meneaux comme dans une gravure fantastique. Nous nous dirigeâmes de ce côté et trouvâmes une bande de terre qui s'avançait dans l'eau. Nous étions trempés jusqu'aux os et elle geignait dans sa robe tire-bouchonnée. Nous abandonnâmes la voiture et nous fîmes le reste du chemin à pied en portant notre sac. Après avoir franchi un pont-levis, nous atteignîmes l'îlot sur lequel se dressait le château. Le portail était ouvert et nous inspectâmes les lieux. L'endroit nous parut agréable. Il y avait partout des chandelles piquées dans des lustres de fer et nous nous empressâmes de les allumer. Comme on aperçoit le château des rives du lac, un spectateur éloigné le voyant éclairé aurait pu le prendre pour un château hanté. Il y avait des lits en abondance et nous pûmes dormir. Au réveil, je m'aperçus que nous étions au château de Chillon. Nous y vécûmes 5 mois parfaitement heureux, jusqu'au moment où le destin, une nouvelle fois, nous frappa.